Bonjour! Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue, comment ça va? Oh mon dieu, incroyable! Bonjour à tous, je me lance dans Flight Simulator, donc adieu. Ah, terrible. Encore un soldat qui tombe. Terrible, terrible. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis désolé, j'ai pas fait beaucoup des streams parce que j'ai été pris ces 3 derniers jours. J'ai été pris, j'ai fait. J'étais invité par Samzira, le youtubeur Samzira, qui a lancé un nouveau talk show politique. Samzira, si vous ne le connaissez pas, je ne le connaissais pas du tout. Samzira est un youtubeur notamment connu pour toutes les vidéos qu'il fait sur le monde de la télé-réalité. Autant vous dire que c'est pas du tout ma soupe, hein, je suis pas du tout du genre à regarder ça. Mais Samzira est une vraie célébrité dans ce petit monde-là. Il a 2 millions d'abonnés hein, sur YouTube. Et ça déconne pas, il a des studios de tournage et tout, et donc il nous a invités, il a lancé un nouveau talk show politique, et donc j'y ai participé. C'est la dernière vidéo qu'il a publiée sur sa chaîne, si vous voulez regarder. On était, il y avait deux politiques en plateau qui étaient invités, et deux autres journalistes, et moi. Et les politiques en plateau, c'était Alma Dufour de la France Insoumise et Raphaël Arnaud de la France Insoumise aussi. Et alors normalement, il était prévu un mec du RN, mais il a décommandé 1 heure avant l'émission. Je crois qu'il a décommandé quand il a vu qu'il y avait Raphaël Arnaud sur le plateau. C'est ce que Raphaël m'a dit en tout cas. Il m'a dit c'est sûr, il faut toujours ça. Donc voilà, donc Sam dira qu'il se lance dans les talk shows politiques. Bah écoute, vas-y Sam, très bonne idée. Moi je trouve ça très chouette. Son intention est tout à fait louable, hein. Rendre la politique plus accessible et tout. Donc sur sa chaîne, il a l'intention d'inviter des politiques. Voilà. Il n'est pas du NPA, Raphaël Arnaud? Non. Raphaël Arnaud, il a été investi par la France Insoumise et il siège au sein du groupe La France Insoumise. Il est à la tête d'une association qui s'appelle la Jeune Garde Antifasciste, qui n'est pas non plus NPA. Donc voilà. Il est apparenté NPA, mais attends, à l'Assemblée, il siège bien avec le groupe LFI. Propose-lui Baxit comme nom. T'es con. Ça te gêne pas d'aller dans une émission avec un invité RN? Ah bah non. Bah non, mais c'est pas moi qui fais les invités. Quand je suis invité dans une émission, c'est pas mon émission, c'est pas moi qui la dirige. Je suis pas responsable des invités. Il n'y a pas de groupe NPA. Ah non, ça, il n'y a pas de groupe NPA. Je vous rappelle que le seul NPA qui s'est présenté aux élections législatives investies par la France Insoumise, il a perdu l'élection. Donc non, non, il y a zéro député NPA. Raphaël Arnaud, il était NPA en 2022. Ah ben il l'est plus. Après, il est peut-être proche personnellement du NPA, évidemment, ça n'empêche pas. Il peut à titre personnel être proche du NPA. C'est tout à fait possible. Donc bref, émission avec Samzira et c'était ma foi assez intéressant. Et hier j'étais l'invité de l'émission Jour de Plaie sur Arte, la très bonne émission présentée par Queenie avec Maudie, ma chère Maudie que j'avais pas eu depuis longtemps et qui m'a interviewé dans la première partie de l'émission. Donc c'était chouette. J'étais content de participer à Jour de Plaie, une émission que j'aime beaucoup sur la chaîne d'Arte, la chaîne franco-espagnole que j'aime beaucoup aussi. Très bon show, ouais, très très bon show. Donc du coup, ça m'a bouffé mes 2 journées d'hier et d'avant-hier, donc j'ai pas pu streamer, ça m'a manqué. Hein. Parce qu'il se passe des dingues, hein. Enfin, il se passe des dingues, toujours pas, on n'a toujours pas de gouvernement. Mais ça ne saurait tarder. Apparemment, le dénouement, c'est pour demain. Ça fait une semaine que je dis ça. Franco-allemande. Oui, c'était une blagounette, un décalage sarcastique. On est ensemble, les frères, on est ensemble, solide sur les appuis, on évite le claquage, on est ensemble. Il faut mettre des capas. Putain, c'est vrai que j'oublie à chaque fois de mettre des capas dans les blagues. J'ai fait une blague nulle de ce genre-là sur le chat de Clément Viktorovitch. Oh, le nombre de gens qui m'ont allumé. Oh, ouais, j'étais en mode, mais hey, calmez-vous, c'était une blague nulle. Mais j'avais oublié le kappa. Faut pas oublier les kappas. Fais une tête kappa pour voir. Non, c'est mort, c'est mort, je sais que tu vas en faire une miniature. Donc non. Arte s'ouvre néanmoins à l'Espagne via Carambolage Espagna. Ah, il y a une version espagnole maintenant de Carambolage? Trop bien! Je savais pas. Bah, let's go, Arte, ça part, hein. Trop cool. On parle que Barnier pourrait se désister du poste de Premier ministre. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, bah, effectivement, j'ai appris que ça commençait à grincer des dents entre l'Élysée et Matignon. Apparemment, les relations sont pas au beau fixe. Et il est possible que le programme politique de Barnier soit pas tout à fait exactement ce que voulait Emmanuel Macron. Peut-il faire autrement? Là est l'autre question. Mais, attends, il est où l'article? C'est pas ça. C'est ça. Voilà. Hop. Hop. On se le met là. Ça, je le ferme. Boum. Boum. Article. Entre Michel Barnier et Emmanuel Macron, les premières frictions. Ça frictionne, attention, hein. La friction, ça fait de la chaleur, hein. Le chef de l'État aurait refusé une première liste de ministres potentiels où les Républicains figuraient en force. Les deux hommes s'affrontent aussi, sur certaines orientations politiques. Le nouveau Premier ministre envisageant d'imposer des hausses d'impôts. Et ça, Macron, il n'aime pas les hausses d'impôts. Mais Barnier, il a l'air de dire, t'es gentil mon grand, mais va bien falloir les augmenter les impôts, vu la situation budgétaire et vu ce que disent le rapport Draghi, le président de la Cour des comptes, le premier président de la Cour des comptes, pardon, et le président de la Banque de France. Il commence à faire beaucoup de gens, hein, qui disent qu'il faut augmenter les impôts. En tout cas, ce serait pas complètement déconnant. Le gouvernement n'est pas encore nommé que déjà la coexistence exigeante, théorisée par l'Élysée au lendemain de la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre, prend des airs de cohabitation dure. Cohabitation dure, c'est une expression qui existe dans l'histoire. C'est à quel point est-ce que la cohabitation entre le président de la République et le Premier ministre est douloureuse et difficile. Il y a eu une cohabitation très dure, celle de 86 entre Chirac et Mitterrand, qui a duré 2 ans, mais qui a fait beaucoup grincer les dents un peu partout. Et il y a eu une cohabitation qu'on appelle plus soft, qu'on a même surnommée la cohabitation de velours. C'était celle entre 1993 et 1995 avec Balladur, où ça se passait un peu mieux entre l'Élysée et Matignon. Ainsi, la composition du gouvernement a altéré sensiblement ces derniers jours les relations entre le chef de l'État et le Premier ministre. Michel Barnier a présenté, mardi, une première ébauche à Emmanuel Macron, une première liste de ministres potentiels, retoquée par le chef de l'État, qui l'a jugée monocolore devant ses proches, et dont les élus du camp présidentiel ont eu connaissance, alors que rien ne fuite de Matignon. Ah, le bâtard, ça y est, ça commence. Alors, effectivement. En parlant de cohabitation dure et de cohabitation douce, une manière qu'a une cohabitation dure de mal se dérouler, c'est quand l'Élysée s'amuse à faire fuiter des documents de Matignon. Grand classique de Mitterrand. auprès de la presse, auprès de ses proches, etc. On a donc un Michel Barnier qui est venu s'entretenir avec le président de la République pour lui présenter une liste de ministres, mais tout jusque-là, c'est secret, c'est discret. On est entre hommes d'État, on est là pour se parler, etc. C'est pas censé se fuiter. Et Emmanuel Macron, visiblement, après la sortie de Michel Barnier de son bureau, il a directement balancé les noms à ses proches en disant hey, regardez ce qu'il fait Barnier. Hey, regardez. Quel bâtard. Cette liste se caractériserait par une présence déraisonnable d'élus, les Républicains, dénonce-t-il. Il, c'est les macronistes. Alors ça commence, hein, ça commence l'ambiance. Abonné aux défaites électorales et fatigué par sa cure d'opposition depuis 2012, LR a en effet retrouvé un appétit vorace, malgré ses 47 députés contre 97 pour le camp du chef de l'État. Au point de réclamer entre un quart et un tiers des ministères, ah bah ils ont pas froid aux yeux, bah ils ont raison, en même temps ils sont en position de force. Dont se dit régalien, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, ministère de l'Économie et des Finances. Nous sommes le premier groupe quand vous additionnez les sénateurs et les députés. Répète à l'envi le chef des sénateurs LR Bruno Retailleau, souvent cité par Beauvau. Il n'a pas tort, Bruno Retailleau, il n'a pas tort. Il rappelle que si on regarde que l'Assemblée nationale, effectivement, on fait pitié. Mais si vous regardez le Sénat, ça commence à représenter quelque chose. Si vous voulez que le Sénat commence à péter les burnes au gouvernement, vous avez qu'à demander. Hein. Ça peut partir, en un claquement de doigts, c'est réglé. Donc Bruno Retailleau, il joue le rapport de force, il a raison. C'est son jeu, c'est son rôle, il n'y a pas de souci. Une quinzaine, donc souvent Bruno Retailleau qui pourrait éventuellement échoir place Beauvau. La place Beauvau, je vous rappelle, c'est la petite place qui jouxte l'avenue du Faubourg Saint-Honoré où il y a l'Élysée, et c'est la place où il y a le ministère de l'Intérieur, le fameux ministère de l'Intérieur, très important, très stratégique, très régalien, ministère de l'Intérieur. Est-ce que si les tensions continuent entre les macronistes et Barnier, les macronistes les plus à gauche pourraient voter la future motion de censure du gouvernement? Il y a très peu de chances. Que les députés macronistes, même les plus à gauche, votent une motion de censure, en tout cas dans un premier temps. il est possible que dans un an, par contre, ça change. Et peut-être qu'on aura des sorties du bois. Mais en même temps, les députés macronistes les plus à gauche, s'ils votent une motion de censure, ils ont la garantie de ne pas être réinvestis dans leur circonscription par le parti. Donc c'est probablement une fin de carrière pour eux. Pourquoi pas, s'ils ont des convictions. On verra. Une quinzaine de députés Renaissance, Modem et Horizon étaient reçus à déjeuner mercredi par le chef de l'État, particulièrement remonté et inquiet à la perspective d'un gouvernement LR dans lequel le camp présidentiel devrait se contenter de postes subalternes. Ils ont prévenu que si tel était le cas, ils ne pourraient pas soutenir le gouvernement Barnier. Emmanuel Macron a approuvé fortement, selon plusieurs convives, encourageant ses hôtes à exprimer le fait que cela ne leur convient pas. Donc Macron instrumentalise la tension entre les macronistes et les LR dans ce nouveau gouvernement. Évidemment, la menace de ne pas soutenir le gouvernement Barnier, pour moi, c'est une menace fictive. C'est normal de faire monter les enchères, on est en pleine composition du gouvernement. Gardez ça en tête. On est au moment où les choses se décident. C'est normal que les camps politiques fassent monter la sauce en disant « bah, puisque c'est comme ça, nous, on ne soutiendra pas ». On verra si Michel Barnier, s'ils iront jusqu'à voter une motion de censure de la gauche. Enfin, franchement, ne pas nommer Lucie Castet à Matignon, tout ça pour voter une motion de censure avec la gauche, je vois pas l'intérêt. Parce que ça veut dire être prêt à soutenir Lucie Castet. Si vous étiez prêt, les mecs, fallait le dire. Vous ne l'êtes pas. Donc le ni Castet ni Barnier, il peut pas tenir en fait. Donc bref, je ferme cette parenthèse. Donc Macron les encourage à le dire, allez-y, dites-le que vous n'êtes pas content. Ce mercredi, en début d'après-midi, le chef de l'État recevait de nouveau, pour la deuxième fois en deux jours, le Premier ministre. Peu après cette entrevue, on apprenait que le rendez-vous de Michel Barnier et les responsables LR, Gérard Larcher, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, prévu à 18h, était annulé. Oh là là, les LR aussi jouent à ce petit jeu. Si vous nous faites un gouvernement full macroniste, nous on soutiendra pas. Bah oui, on était opposants à Macron il y a encore 2 mois. Pour ne pas accroître l'impression que le Premier ministre privilégie sa famille politique, alors qu'il a annulé mercredi matin officiellement, pour des raisons d'agenda, la rencontre avec une délégation du camp présidentiel, ou bien parce que le chef de l'État lui a demandé une nouvelle fois de revoir sa copie, l'entourage de Michel Barnier se gardait d'avancer la moindre raison et démentait les informations inexactes qui circulent, notamment sur des noms et sur l'équilibre des sensibilités. Cela ne représente en rien le projet de gouvernement souhaité par le Premier ministre, dément l'équipe du gouvernement. Du chef du gouvernement, pardon. Si aucun ministre RN n'est proposé au gouvernement ni NFP, pourrait-il censurer ? Qui ça ? Il y a peu de chances qu'il y ait un ministre RN. Il y aura peut-être un ministre apparenté RN. Du genre Ménard, tu vois. Mais Marine Le Pen et Jordan Bardella, je crois, ont été assez clairs sur le fait qu'ils ne souhaitaient pas participer au gouvernement. Ils ne le censureront pas, mais ils ne veulent pas pour autant y participer. Ciotti, ça pourrait être intéressant. Ah, oh, ça foutrait un bordel chez LR. LR serait obligé de soutenir un gouvernement dans lequel il y a Ciotti. Oh, le drama Los Republicanos, mais éternel. Ah, si Barnier a le sens de l'humour, il fera ça, mais il n'a pas le sens de l'humour. En dépit de ces discordances, l'Élysée jure que le chef de l'État laisse la main au Premier ministre. Bah tiens, prends-nous pour des cons. Mais il lui fixe l'objectif de se rapprocher le plus possible de l'Union nationale et du respect des équilibres entre les forces politiques. Tétanisé, selon l'un de ses interlocuteurs réguliers, à l'idée qu'une motion de censure renverse le Premier ministre, l'entraînant probablement dans sa chute. Emmanuel Macron veut le gouvernement le plus large et le plus consensuel possible. Bah, c'est-à-dire que, oui, là, pour ce coup-là, il faut donner raison à Emmanuel Macron. Si le gouvernement de Barnier est dissous, tu dégages, frère. Enfin, quand on a vécu le psychodrame qu'on a vécu cet été avec l'impossibilité de trouver un chef de gouvernement, si la seule cartouche que t'as, elle dégage, bah toi, tu dégages avec, en fait. Et, je veux dire, là, la seule issue, c'est la démission du président de la République, hein, qui va être réclamée en cœur par la gauche et par l'extrême droite. D'après Le Parisien, il y aurait un ministre d'hiver gauche. Oui, il y aurait un ministre d'hiver gauche, j'ai vu. Il s'agirait probablement de Didier Migaud. Alors bon, Didier Migaud a été un homme de gauche pendant longtemps. Didier Migaud a surtout été le président de la commission des finances en 2007. Il a par la suite été le président de la Cour des comptes, le premier président de la Cour des comptes. Didier Migaud est quelqu'un de très respecté partout. Il est pas spécifiquement un homme de gauche. Il est issu de la gauche. Il a été socialiste pendant des décennies. Mais voilà quoi. Il est pas, enfin, voilà, il est pas acclamé à la fête de l'UMA cette année, quoi. C'est pas ce genre de profil-là. Est-ce qu'on a fait des calculs pour la procédure de destitution du NFP si le RN vote pour? Le RN ne votera pas la destitution du président de la République en commission des lois. Ça a très peu de chances d'arriver. Et quand bien même, ça ne suffit pas, parce que pour le vote à l'Assemblée en séance publique, il faut les deux tiers des voix. Et le NFP plus le RN, ça fait pas deux tiers. Donc, Macron dit voilà, en vrai, je laisse Michel Barnier faire. Hein. C'est pas moi qui dirige. Mais bon, je retoque. Voilà, c'est pas moi qui fais, mais je retoque. Donc il lui fixe l'exercice machin, il a bien compris que c'était probablement son dernier gouvernement avant sa démission si jamais ça passait pas. Le Premier ministre a bien tenté d'attirer des figures de gauche ces derniers jours, sollicitant notamment Cécile L, la maire d'Avignon, Valérie Rabault, l'ancienne première présidente, première vice-présidente PS et ancienne de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Philippe Brun, député PS de l'Eure, on l'avait reçu sur Brexit, Philippe Brun, ou Stéphane Le Foll, maire du Mans. Mais il a essuyé autant de refus. Tout le monde a dit non, c'est mort, les gens de gauche, ils veulent pas participer à un gouvernement sous la coupe de l'extrême droite. Il faut avoir sa carte au PS pour que Barnier vous appelle. Et la plaisanterie du moment dans les discussions entre élus LR. Les élus LR qui trouvent qu'il y a quand même trop de gens de gauche hein, dans ce gouvernement. Comment ça bien faire? Michel Barnier se voit décliner des offres à droite aussi. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a aussi refusé mercredi le portefeuille du logement et de la ville que lui proposait le Premier ministre. Préférant, lui a-t-il expliqué, se concentrer sur les municipales de 2026. Ouais, c'est vrai que les maires, ouais. La mise en œuvre du gouvernement Barnier n'attire pas les foules, ironise la chef de file des députés du Rassemblement National Marine Le Pen dans Le Parisien mercredi. Et la manière dont LR, qui a pourtant très lourdement perdu les législatives, fanfaronne matin, midi et soir, ne doit pas véritablement rendre la tâche facile à Michel Barnier. Elle a raison, Marine Le Pen, sur ce coup-là. Effectivement, les Républicains foutent un peu le sbeul dans tout ça. La preuve, Emmanuel Macron n'est pas content. Il y a trop de Républicains selon lui. De fait, longtemps hostile à toute coalition gouvernementale, le patron des députés LR, Laurent Wauquiez, est désormais un soutien enthousiaste de Michel Barnier. Mais il se montre exigeant, se disant attentif sur les garanties pour une vraie politique de droite sur les sujets qu'il juge fondamentaux. Hors de question de diluer son offre politique dans un consensus trop macroniste à la fin. Laurent Wauquiez, il est clair et il a raison de l'être. Il va falloir que ce soit un gouvernement de droite, franchement de droite. Pas de compromis à la con. Mais il va falloir en faire des compromis à la con avec les macronistes en fait. Pas plus en direction de sa famille politique qu'en direction du camp présidentiel, M. Barnier ne laisse filtrer d'informations sur la future architecture gouvernementale. Ça, à mon avis, il a raison, Michel Barnier. Il a dit à ses collaborateurs, vous fermez vos grandes gueules, vous ne parlez pas aux journalistes, vous n'envoyez pas de SMS avec des listes qui circulent de gouvernement, etc. Je ne veux pas de fuite de Matignon. Cela a le don, admet l'un de ses soutiens, d'électriser les macronistes qui ne le connaissent pas, mais aussi son propre camp, où certains s'agacent de l'absence de garantie sur le casting gouvernemental et d'une feuille de route claire. J'aimerais tellement pas être Barnier, à se faire castagner par LR et par les macronistes en boucle. Le président peut-il destituer le Premier ministre? Non. Sauf s'il est de son camp, auquel cas, évidemment, c'est le président qui a la possibilité d'obtenir la démission du Premier ministre. C'est ce qu'on avait vu avec Elisabeth Borne, qui avait été débarquée sans le vouloir. Avant même ces tensions autour de la formation du gouvernement, Michel Barnier a dû, le week-end du 14 et 15 septembre, subir une première mise à l'écart de la part du président de la République qui ne l'a pas associé à la décision de proposer son fidèle lieutenant Stéphane Séjourné à la Commission européenne. Alors ça, j'ai vu ça. Stéphane Séjourné, effectivement, va remplacer Thierry Breton comme commissaire français. Je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'est Matignon ou est-ce que c'est l'Élysée qui décide des nominations du commissaire européen? Visiblement, c'est l'Élysée. Je savais pas ça. Je croyais que c'était plus consensuel que ça. Bon, bah c'est le PR. Ok, c'est le PR. alors qu'il déjeunait samedi avec son ami Thierry Breton, ancien commissaire européen désavoué par la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, Michel Barnier n'a pas été informé que dimanche, en fin de journée, du choix du chef de l'État. C'est pas ouf ça en cohabitation de pas prévenir ton premier ministre quand tu nommes des gens. C'est pas... Ok. Or, l'ancien négociateur du Brexit, donc Thierry Breton, qui dispose d'un important réseau à Bruxelles et est partisan du domaine partagé sur les questions internationales, n'entend pas se désintéresser des affaires européennes. Ah, est-ce qu'on aurait un Thierry Breton aux affaires européennes ? Ça m'étonne. Ça m'étonnerait. Autre sujet de friction entre le président de la République et le chef du gouvernement, l'hypothèse esquissée par Michel Barnier des hausses d'impôts qui ferait tomber un totem présidentiel. Le chef de l'État a redit mercredi devant les députés de son camp que le Premier ministre n'était pas là pour détricoter ce qui a été fait. Eh ben, on verra au budget, mon grand. C'est Barnier le Brexit. Oui, Barnier, pardon. C'est Barnier qui a négocié le Brexit, c'est pas Thierry Breton. Thierry Breton, il a fait le DSA DMA et il a cassé les couilles à Apple et Facebook. Et Google. Et Elon Musk aussi. En attendant, 14 jours après sa nomination, Michel Barnier, doyen des locataires de Matignon, a battu un nouveau record dimanche, celui du Premier ministre qui aura mis le plus de temps à composer son gouvernement, même s'il avait fallu à son prédécesseur Gabriel Attal 4 semaines pour présenter un gouvernement au complet. Oui, mais il avait présenté une première mouture et puis ensuite il l'avait complété avec des secrétaires d'État. Je me souviens, il avait fait ça, Gabriel Attal. Je ne l'ai pas senti sur le point de débloquer la situation rapidement, confie le député PCF de Seine-Saint-Denis, Stéphane Peu, reçu mardi par Michel Barnier aux côtés des secrétaires nationales du PCF, Fabien Roussel. Tandis que le président de l'Union des démocrates et indépendants, l'UDI, Hervé Marseille, envisage, lui, non que tout cela finisse mal, mais que cela ne commence pas. Alors que la pression monte sur le locataire de Matignon, Michel doit garder le calme des vieilles troupes, déclare Antoine Vermorel-Marquès, député LR de la Loire et proche du Premier ministre. Depuis sa nomination, il a la légitimité de l'opinion et personne n'a intérêt à jouer le pourrissement. Ça, c'est vrai. L'élu Ligérien, c'est où Ligère ? Dans la Loire, je sais pas, je connais. Vise surtout Gabriel Attal, pour lequel il ne voit pas d'intérêt d'aller au clash. Une façon de suggérer, c'est la Loire, Ligérien, c'est habitant de la Loire ? Eh ben, je savais pas, tu vois. C'est fou, ça, nos territoires ont du talent. Merci beaucoup. L'élu ligérien, donc, vise surtout Gabriel Attal, pour lequel il ne voit pas d'intérêt d'aller au clash. Une façon de suggérer que faire tomber Michel Barnier reviendrait à renverser Emmanuel Macron lui-même. Bah oui. C'est pour ça que Macron, faut pas trop qu'il fasse le mariole avec Michel Barnier. Parce que Macron, il dépend du succès de Michel Barnier. C'est fou, hein. Si ça se trouve, on va avoir une cohabitation dure. D'autant qu'il y a une cohabitation dans la cohabitation, quand même, je rappelle, c'est que le chef du parti présidentiel et par ailleurs chef des députés macronistes, c'est Gabriel Attal. Et Gabriel Attal et Emmanuel Macron ne s'entendent pas. Eh ben, mes enfants, si Michel Barnier démissionne, Macron, il fait quoi ? Eh ben, il est bien dans la sauce, Macron. Ils se sont brouillés. Bah, depuis qu'il était à Matignon, Gabriel Attal, il a essayé de s'autonomiser d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'a pas du tout apprécié. Et puis, par ailleurs, je vous rappelle quand même qu'Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale contre l'avis de Gabriel Attal, qui lui a fortement déconseillé de le faire et qui lui a même proposé sa démission en échange. Donc, depuis cet été, le torchon brûle entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Et puis Gabriel Attal aussi, il n'est pas complètement con, il voit aussi sa cote de popularité qui est assez bonne, et il se dit que c'est peut-être le moment de s'autonomiser du père, tuer le père, pour commencer à démarrer sa propre carrière politique. Un peu avec Macron et Hollande. Ouais, un peu comme Macron et Hollande, ouais, effectivement. Oh, Macron a tué le père, ouais. Commencer sa carrière politique alors qu'il a été Premier ministre. Bah, en fait, c'est pas le poste qui est important, c'est la légitimité que tu tires, notamment des élections. Gabriel Attal, jusqu'à présent, il n'a remporté que des élections législatives. Alors, c'est très bien de remporter des élections législatives, mais bon, il les a remportées dans un contexte où il était boosté par le fait qu'il y avait Emmanuel Macron sur son affiche de campagne, c'est ce qui lui a permis d'être élu. Là, c'est peut-être le moment pour Gabriel Attal de démarrer une carrière politique en solo, sans la coupe d'Emmanuel Macron, sur son seul nom. Et de commencer, pourquoi pas, à caresser le rêve de devenir maire de Paris, de devenir je ne sais quel candidat à l'élection présidentielle de 2027. Attal, il est boosted, Jean l'a dit. Ah non, mais tous les députés qui ont la tronche d'un leader charismatique avec eux sur l'affiche, ils sont boosted, hein. Tous les députés insoumis, ils sont boosted par Jean-Luc, hein. Tant mieux pour eux. Oh, pas tous. Il y en a deux, trois qui sont élus sur leur nom, mais. Sauf Ruffin, ouais. Sauf Ruffin. Est-ce que la France Insoumise va présenter un candidat face à Ruffin dans sa circonscription en Picardie? Ça va être sympa. Ça va être la bonne ambiance. Ce qui serait une très bonne nouvelle pour le RN, qui du coup récupérait la circo. Très probablement. Enfin, je veux dire, si les deux s'annihilent l'un l'autre au premier tour. Ils vont donner la circo au PS. Ouais, c'est l'autre solution, c'est de négocier le fait que c'est pas ta circo et c'est que tu laisses l'autre partie se démerder avec le problème. Qu'est-ce que tu penses des sifflets contre Ruffin? Moi, j'en pense rien. Attendez, Ruffin et Mélenchon ont un désaccord pas technique, pardon, mais stratégique. La gauche a des désaccords stratégiques depuis un siècle et demi. C'est normal. La gauche vit de désaccords stratégiques. Le débat à gauche a toujours visé sur quels sont les électorats qu'on doit prioriser, où est-ce qu'on doit mettre le paquet, etc. C'est normal, c'est naturel, c'est éternel d'ailleurs, et c'est très bien. Le truc, c'est que à gauche, normalement, on gère ce genre de débat stratégique et politique dans des congrès avec des votes. Il n'y a pas de congrès à la France insoumise. Il y a une direction et il y a des troupes qui la soutiennent. Donc tu ne peux pas faire vivre de débat interne à la France insoumise qui serait tranché par le vote avec des minorités au sein du parti qui ont des options politiques qui ne sont pas tout à fait ceux de la direction mais qui se rangent quand même derrière parce qu'il faut bien faire bloc et montrer de l'unité. Voilà. Donc bon, bah, c'est dommage que le débat stratégique se règle à coups de tweets hargneux et de sifflets, quoi. Mais ça, c'est bon, c'est un problème éternel à gauche, hein. Et puis par ailleurs, j'étais avec Raphaël Arnaud mardi, j'ai discuté avec lui du Siamo Tutti antifasciste qui a été scandé à la fête de l'UMA, et il m'a dit lui-même, mais putain, c'est pas du tout dirigé contre François Ruffin. Enfin, Raphaël Arnaud lui-même, il est hyper désolé de ce qui s'est passé sur Twitter où les gens ont dit, ouais, c'est une manière qu'ont eu les gens de répondre à François Ruffin pour ce qu'il a dit sur le tractage au faciès. Il a dit, mais pas du tout. Les gens, ils s'étaient pas dirigés contre Ruffin. Plus c'était dans une autre partie de la discussion et tout. Et puis en plus, il a conclu en me disant, tu sais, moi, à chaque fois que je vais quelque part, il y a toujours des Siamo Tutti antifascistiques qui pop. Donc, à chaque fois qu'il passe quelque part. Donc bon. Donc voilà, donc ce n'est rien d'autre qu'un débat stratégique à gauche sur quels sont les électorats vers lesquels on doit se diriger en priorité, quelles sont les préoccupations populaires qu'on doit viser en priorité. C'est le même genre de débat que tu as à l'extrême gauche pour savoir si les luttes antiracistes doivent être prioritaires sur la lutte des classes. Ça fait des décennies que ces débats-là existent, qui sont assez intéressants, qui sont généralement assez intelligents et de haute tenue. Mais parfois ça vire à... Et puis par ailleurs, c'est aussi le problème des personnalités. On joue aussi sur le problème des personnalités. François Ruffin caresse des espoirs présidentiels et Jean-Luc Mélenchon aussi. Quand soudain sont apparus les réseaux sociaux dans l'histoire de la gauche. Ouais. Quel candidat pour la gauche en 2027? Bah déjà, là, tu pars du principe qu'il y aura un candidat commun. Moi, je ne le vois pas advenir, le candidat commun. Il y a des partis qui ne veulent pas de candidat commun. La France Insoumise, par exemple. Le Parti Socialiste aussi. Le PCF. Bon, le PCF, on peut se dire qu'ils sont pas très gênants. Faure, il a dit qu'il voulait un candidat commun. Ouais, je l'ai entendu dire ça. Je l'ai entendu dire ça, mais bon, on verra, hein. Franchement, on verra. Non, je pense qu'on aura, Jean-Luc Mélenchon va être candidat et on aura aussi Raphaël Glucksmann qui sera candidat. Alors soutenu ou pas par le PS, ça on verra, j'en sais rien. Peut-être qu'on aura une troisième, un troisième candidat de la gauche qui réunira les communistes, les écologistes et les socialistes. Mais alors putain, vu les histoires politiques, vu les cultures militantes, etc., c'est quand même très difficile d'imaginer un candidat écolo et PCF. On verra, hein. Pourquoi pas Castet? Ouais, pourquoi pas Castet? Pourquoi pas Castet? Elle a ce mérite-là, Castet, de porter le nom d'une union. Alors non, oui, non, tu dis qu'il y a une notif du Monde que le gouvernement proposait ce soir. Non, non, il n'y aura pas de gouvernement annoncé ce soir, je ne pense pas, parce que Michel Barnier a rendez-vous avec Emmanuel Macron après 19h. Barnier a rendez-vous avec Macron, donc il va lui présenter un gouvernement. Mais ça ne veut pas dire que nous, on le connaîtra à ce moment-là, peut-être que ce sera pour demain. Ou peut-être pour ce soir, je sais pas. Jean fait un prono, donc ça va être faux. Ouais. Le PCF prend trop de place proportionnellement à son projet vide au niveau national. Eh bah, ben, va dire ça aux militants sur le terrain. Dis-leur que les communistes sont trop nombreux. Ça leur fera plaisir de l'apprendre. Le nombre de ministres par parti est tombé. Oui, on a vu que c'était un gouvernement paritaire, avec 36, donc paritaire, ça veut dire a priori qu'il y aura autant d'hommes que de femmes, avec 36 ministres. On verra. Pile pour le JT de 20h, ouais, peut-être. Combien faut-il de ministres pour faire un gouvernement? Il n'y a pas de nombre. Il n'y a aucun nombre. 38 ministères? Ah, j'avais vu 36. Ils ont peut-être ajouté deux depuis. 38 ministres. C'est beaucoup? Oui, 38 ministres, c'est plutôt dans la mouture haute du nombre de ministres. Mais en réalité, ça dépend aussi si tu comptes dedans les ministres délégués et les secrétaires d'État. Tu vois, c'est toujours pareil, ça dépend comment tu comptes. Mais en réalité, une trentaine de ministres, c'est ce qu'on avait déjà sous Attal, hein. C'est pas nouveau. Ça veut dire quoi, ministre de plein exercice? Ministre de plein exercice, ce sont les ministres qui ont la responsabilité d'un ministère ou d'un champ à eux tout seuls. Ils peuvent avoir des ministres délégués. Ils peuvent avoir des secrétaires d'État aussi. C'est à peu près pareil. C'est ça, un ministre de plein exercice. Donc, ministre de l'Éducation nationale qui peut avoir un secrétaire d'État délégué à la jeunesse. Ministre du Travail, ministre de la Santé. Enfin, tu vois, c'est voilà, t'es à la tête d'un ministère et tu peux avoir des gens qui bossent sur des domaines spécifiques pour toi. Enfin, qui sont sous ta coupe. C'est quoi le pouvoir et le devoir d'un secrétaire d'État? Car les secrétaires d'État au numérique n'ont pas de ministère. Alors, il ne faut pas confondre le fait d'avoir un ministère au sens quasi religieux du terme. Hein. Vous êtes investi d'un ministère, donc vous devez diriger les choses, et le fait d'avoir une administration. Il y a des ministres qui ont peu d'administration, peu de fonctionnaires, mais qui ont beaucoup de pouvoir. Le ministre des Affaires étrangères, par exemple, il est à la tête des diplomates. Bon, alors diplomate, il y en a partout dans le monde, mais c'est pas non plus une armée phénoménale en nombre de personnes. Mais le ministre des Affaires étrangères, il a un pouvoir très important. Il dirige la diplomatie française, c'est quand même pas rien. Donc vous voyez, faut pas confondre l'importance du ministère en taille, c'est-à-dire en nombre de fonctionnaires, et l'importance que ça a. Le ministère du Travail, il n'y a pas beaucoup de fonctionnaires. Ah, c'est un ministère hyper important, le ministère du Travail. Le ministère de l'Éducation nationale, il y a énormément de fonctionnaires. Plus d'un million. C'est aussi très important, l'Éducation nationale, vous me direz. Le ministre des Armées, tu comptes le nombre de militaires, ça fait beaucoup. Donc n'oubliez jamais, un ministre n'a de pouvoir et de réalité que dans la capacité qu'il a à changer les choses, à mener une grande réforme. Tu peux mener d'énormes réformes. Tu peux mener d'énormes réformes en étant un secrétaire d'État dans un petit ministère, peu importe. Si c'est toi qui portes la loi qui va changer les choses pour les Français, la loi qui a ton nom sera une loi hyper importante. Et à l'inverse, tu peux être ministre de l'Éducation nationale et ne rien faire. Tu peux ne pas avoir de grandes réformes de l'éducation. Tu peux reconduire ce qui existe déjà tous les ans. Ne pas avoir les coups des franges, ne pas avoir de pouvoir politique réel. Voilà. Le ministre du Parlement a très peu de personnes. Ouais, c'est vrai, le ministre chargé des relations avec le Parlement, c'est un ministre très subalterne dans la hiérarchie et dans l'importance de l'administration. D'ailleurs, il n'a même pas d'administration, ce mec-là. Mais par contre, c'est un pion très important dans le dispositif gouvernemental. Ton ministre des Relations avec le gouvernement, moi j'ai toujours dit que c'est un des mecs les plus importants de ton gouvernement. Surtout en ce moment. Là, Barnier, j'espère qu'il l'a bien choisi, son ministre des Relations avec le gouvernement. Relations avec le Parlement, pardon. Sinon, ça veut rien dire. Genre reconduire Riester, je sais pas, j'en sais rien, moi je connais pas Riester, je sais pas s'il a des bonnes relations avec les Républicains. Là, il va falloir un ministre des Relations avec le Parlement qui soit capable de parler aux macronistes et aux LR aussi bien, et aussi au RN. Notamment sur le travail sur les amendements. Bon courage, hein. Dans l'autre sens, est-ce qu'il y a un député chargé de la relation avec le gouvernement? Non. Il y a 577 députés dont le rôle est de contrôler l'action du gouvernement et de discuter et voter les lois. Le ministre des Relations avec le gouvernement, c'est pour faire l'interface entre Barnier et Macron. Peut-être que Barnier et Macron vont avoir besoin d'un conciliateur. Une personne, tu sais, qui est spécialisée dans les divorces. Voilà. qui va mener un travail de thérapie pour essayer de les faire se parler, d'exposer calmement leurs différends. Et ah, non, j'ai dit on ne crie pas, c'est la règle. On ne crie pas, on écoute ce que l'autre a à dire. On ne dit pas tu, on dit je. Communication non violente. On arrête de donner des infos à Mediapart sur l'autre. On indique qu'on arrêtait ça. Le bâton de parole. Et voilà, on prend le bâton de parole avant de parler. Qui demandera le divorce en premier? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Alors, il y a un article intéressant aussi que je voulais vous lire de Solène Desroyers, de Toujours du Monde. Qui pose la question de savoir quelle va être la couleur politique du gouvernement de Michel Barnier. Est-ce que ce sera la poursuite du macronisme ou est-ce qu'on va avoir des formes de rupture? Et effectivement, c'est une question intéressante à se poser, notamment compte tenu du résultat des élections de juin dernier et de la volonté de beaucoup de Français de passer à autre chose. Alors, l'autre chose n'est pas très bien défini, parce qu'il y a du RN et il y a de la gauche qui n'est pas tout à fait compatible. Donc, de quoi est-ce que le gouvernement Barnier va pouvoir... en quoi est-ce que Barnier va pouvoir imprimer des ruptures? On va voir. Si l'ex-ministre de Jacques Chirac a montré d'emblée qu'il n'avait pas l'intention d'être réduit à un rôle de collaborateur, Emmanuel Macron espère bien garder la main et l'ascendant, analyse Solène Desroyers, journaliste au Monde, dans sa chronique. Alors, lisons la chronique de Solène Desroyers. Le tango que jouent Emmanuel Macron et la droite depuis 2017 se déploie dans un nouveau mouvement avec la nomination de Michel Barnier à Matignon. Le président de la République s'est employé, avec constance, à affaiblir le parti des Républicains afin d'absorber son électorat tout en ayant besoin de ses élus pour faire passer les textes au Parlement. Mais il n'a jamais fait le moindre geste en faveur d'une coalition qu'au fond il ne souhaitait pas vraiment, non désireux de partager son pouvoir avec un parti qui a fait 4% à la présidentielle. La dissolution déclenchée le 9 juin l'a finalement contraint, et vice-versa, à faire un deal avec la droite. Alors, je suis d'accord, et en même temps, je ne sais pas si on peut dire qu'Emmanuel Macron n'a jamais voulu d'une coalition. Moi, je pense qu'entre 2022 et 2024, Emmanuel Macron et Gabriel Attal et Elisabeth Borne ont tenté de faire une forme de coalition avec les Républicains, mais à l'époque, les Républicains étaient dirigés par Éric Ciotti, et ils ne voulaient pas entendre d'une participation à un gouvernement macroniste et d'un soutien à sa politique. Même si de fait, il soutenait la politique puisqu'il votait une partie des lois et il ne votait pas les motions de censure. La fameuse onction de censure qui a permis à Elisabeth Borne et Gabriel Attal de continuer à gouverner. Je pense qu'Emmanuel Macron a essayé. Il n'a pas réussi. Sauf que là, l'exercice de dissolution de juin dernier a donné naissance à une clarification de facto au sein des Républicains avec le départ d'Éric Ciotti vers le Rassemblement National. Et le maintien en poste, pour le coup, du reste des Républicains derrière Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, que l'on sait, plus favorable à une coalition avec les macronistes, puisqu'il va y participer, a priori. On l'apprendra ce soir ou demain, Laurent Wauquiez sera ministre dans le gouvernement Barnier. En tout cas, je suis d'accord avec sa dernière phrase. La dissolution déclenchée le 9 juin l'a finalement contraint, et vice-versa, à faire un deal avec la droite. Et ça, ils y sont obligés. Jeudi 5 septembre, Emmanuel Macron a expliqué par téléphone à l'ex-socialiste Bernard Cazeneuve que les propres amis de ce dernier avaient saboté la possibilité de sa nomination avec un soin attentif. En réalité, le chef de l'État n'a jamais voulu prendre le risque de voir son bilan détricoté, alors que l'ancien Premier ministre de François Hollande, qui aurait été sous pression du nouveau Front Populaire à l'Assemblée, avait prévenu qu'il ne serait pas un Premier ministre de gauche menant une politique de droite. Michel Barnier, il était prêt à mener une politique de gauche. Sous-entendu, si je suis nommé Premier ministre, je serai sous la coupe du nouveau Front Populaire, j'aurai besoin de leur voix pour faire adopter mes lois, donc je serai forcé de faire des trucs de gauche. Notamment augmentation du SMIC, augmentation des impôts des plus riches, etc. Ça, visiblement, Cazeneuve l'avait dit, et semble-t-il, Emmanuel Macron y était prêt. Ou alors, Emmanuel Macron n'y étant pas prêt, il a fait semblant de remettre la charge sur la tête du Parti Socialiste de celui qui a empêché la nomination de Cazeneuve. Cazeneuve, pas Barnier. Pardon, j'ai confondu, mais vous m'avez compris. Désolé, excusez-moi. Or, si M. Macron veut bien reconnaître du bout des lèvres qu'il a perdu les élections, il n'a pas l'intention pour autant de changer de politique, lui qui répète que personne n'a gagné lors des législatives. Sur le fond, les convergences avec la droite sont bien plus grandes qu'avec la gauche. Soucieux des comptes publics, Michel Barnier s'était même dit favorable à la retraite à 65 ans lors de la primaire des Républicains à l'automne 2021. Décrit dans les couloirs de LR comme un macroniste déçu, il avait d'ailleurs déjà été pressenti pour rejoindre Matignon en 2020. Depuis, l'ancien négociateur du Brexit est resté en contact avec le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, poussant ses intérêts auprès de ce puissant allié, c'est vrai, puis il a pesé de tout son poids pour sa nomination, orthodoxe et rassurante à ses yeux. Ok, intéressant. Il a l'oreille d'Alexis Kohler, c'est important ça. Depuis l'annonce officielle, l'Élysée, qui récuse le mot « cohabitation », lui préférant celui de « coexistence » ou de « coopération exigeante », s'emploie à mettre en scène un supposé lâcher-prise du président de la République, actant notamment la fin des conseillers partagés entre l'Élysée et Matignon. Mais ça, c'est pas étonnant, ça ne pouvait pas continuer. Mais en nommant Michel Barnier, réputé calme et courtois, et qui n'a jamais été une figure flamboyante de la droite, Emmanuel Macron espère bien garder la main et l'ascendant. Non mais c'est pour ça qu'à un moment, moi je veux bien que l'Élysée fasse semblant de dire « je laisse la main à Michel Barnier, il a les coups des franges pour gouverner ». Il y a un moment, quand l'Élysée fait savoir qu'ils sont mécontents de la composition du gouvernement Michel Barnier et que le président de la République en personne retoque une copie, enfin c'est bon, il y a un moment entre la parole et les actes, faut arrêter de nous prendre pour des cons quoi. J'en étais où ? C'est sans compter sur le Savoyard qui a toujours eu horreur d'être sous-estimé. Lors de la passation de pouvoir avec Gabriel Attal, jeudi, l'ancien ministre de Jacques Chirac a montré d'emblée qu'il n'avait pas l'intention d'être réduit au rôle d'exécutant ou de collaborateur et qu'il apporterait sa valeur ajoutée, imprimant un style nouveau. En ne remerciant pas le chef de l'État dans son premier discours, le Premier ministre ne se place pas dans un rapport de suggestion d'emblée à l'égard de celui qui l'a nommé. C'est vrai. Livrant un réquisitoire en creux du macronisme, il a annoncé qu'il avait l'intention d'agir plutôt que de parler, d'écouter les corps intermédiaires, de respecter les gens d'en bas et de ne pas tout imposer d'en haut. Effectivement, en creux, c'est une critique amère et acide du macronisme. Dans cette nouvelle page, il y aura des changements et des ruptures, a-t-il résumé, actant dans le même temps une revanche de la droite qui hérite de Matignon, en dépit de sa faiblesse numérique à l'Assemblée. Le grand remplacement de la Macronie par la droite est en marche, analysent certains chez LR, dans le sillage de Nicolas Sarkozy qui a incité ses amis à reprendre le pouvoir de l'intérieur, alors qu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter dans 3 ans. Et ça c'est vrai, ils ont raison la droite, c'est bien Nicolas Sarkozy qui a gagné là-dedans depuis le temps qu'il force et qu'il pousse vers un accord entre les macronistes et les LR, il a gagné. La nomination de Michel Barnier signe-t-elle le prolongement du macronisme, comme semble croire M. Macron et Colère, ou bien sa fin ? Le choix du directeur de cabinet pour Matignon, tout comme celui des ministres, dira quelle est l'étendue de la marge de manœuvre du Premier ministre par rapport à l'Élysée. Michel Barnier sait qu'afficher une forme d'indépendance sera aussi l'une des conditions de sa survie dans une assemblée morcelée, aux 2/3 hostile au président de la République. Si Barnier est le petit télégraphiste de Macron, nous le censurerons, ont prévenu l'allié de Marine Le Pen, Éric Ciotti. L'extrême droite est en embuscade. L'exercice s'annonce périlleux, alors que l'ex-négociateur du Brexit, partisan des consensus et qui rêve au-dessus de la mêlée, dépend d'abord et avant tout des 47 députés LR et des 166 députés de l'ex-majorité, Renaissance, Modem et Horizon. Il se trouve aussi placé sous l'étroite surveillance des 142 élus RN et de ses alliés, qui, s'ils décident de mêler leur voix à celle de l'alliance de la gauche, ont le pouvoir de le faire tomber à tout moment. Fruit des circonstances, une crise politique qui menace de se transformer en crise de régime, le Premier ministre, qui ne tient qu'à un fil, va devoir lever enfin les incompréhensions chez un certain nombre de Français. Ces derniers pourraient en effet penser qu'en nommant un chef de gouvernement issu d'un parti qui occupe la 5e place à l'Assemblée et n'a pas participé au Front Républicain, pourtant le seul vrai grand vainqueur du second tour des législatives 2017, du 7 juillet, pardon, Emmanuel Macron n'a tenu aucun compte du scrutin. Michel Barnier, il est dans une sauce. Ce que je vous disais, il est sous la coupe de l'extrême droite qui peut décider en un claquement de doigts de le censurer. Il est sous la coupe de l'Élysée qui veut l'empêcher de faire trop à droite et de rester sur un truc beaucoup plus macroniste. Et il est sous la coupe de l'opinion publique qui va être juge au bout du bout. Et je vous rappelle que ça commence dès le 1er octobre prochain avec une manifestation à l'appel de l'intersyndicale. La sauce barniaise, ça doit être ça. La démission de Barnier serait-elle perçue comme le renvoi de Necker ? Bah non, parce que Necker, il a été renvoyé par le roi, et il avait plutôt l'assentiment d'une partie du peuple. Ah, c'est pas du tout ça. Il est temps que la gauche redevienne ce qu'elle était, la rébellion. Il est temps de tabasser des institutions. D'accord. Donc les institutions que la gauche a patiemment créées, maintenant il faut les tabasser. Bah vas-y, par devant. Si Barnier veut démissionner, mais Macron refuse, est-ce qu'il est piégé ? Bah ça changera rien, ce sera un gouvernement démissionnaire de fait. Donc non, tu peux pas... Macron sera obligé de nommer un nouveau gouvernement. Après, s'il réussit, il aura l'air d'un sacré bonhomme, mais ça va être compliqué. Je sais pas, c'est une bonne question. En réalité, Barnier, il ne caresse pas d'espoir présidentiel pour lui, donc... Je serais plus sur un retour des guillotines. D'accord. Donc les guillotines que la gauche a réussi à faire disparaître de ce pays, tu veux les réintroduire ? Je pense que Marine Le Pen, elle sera d'accord avec toi. Elle votera ta loi. La démission de Barnier est-elle crédible au vu de la situation actuelle? Non, non, en l'état actuel, il n'y a pas de démission de Michel Barnier. Michel Barnier, il va composer un gouvernement qui devrait prendre en compte les équilibres entre les macronistes et les LR. Et en l'état actuel des choses, le RN a dit qu'il ne le censurerait pas. Pour l'instant, il devrait pouvoir esquiver ça. Après, il va falloir qu'il... Il va falloir que... Il va falloir qu'il réussisse à faire passer un budget. Ça va être funky, hein. Est-ce que Wauquiez cherche à être dans ce gouvernement? Je crois, oui. Je crois que Wauquiez cherche à être dans ce gouvernement et qu'il y sera. D'après les rumeurs qui circulent, machin, a priori, il y a toujours plus ou moins Wauquiez dans le paysage. C'est vraiment la fin du ni de droite ni de gauche. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Et comme dirait Thomas Legrand sur France Inter, c'est la fin du macronisme. Le macronisme est une doctrine politique qui a été au pouvoir en France de 2017 à 2024. À partir de maintenant, s'ouvre une nouvelle page. C'est un gouvernement de droite, assumé comme étant de droite, qui est même sous la coupe de l'extrême droite. C'est le retour du clivage gauche-droite. À mon avis, c'est le retour du clivage gauche-droite. Enfin, je dis ça, c'est pas un truc qu'on peut prophétiser. Il faut voir si c'est dans les têtes et tout. L'autre question que je posais et que je vous disais que je trouve intéressante, c'est est-ce que Marine Le Pen va continuer à apparaître comme une opposante à Emmanuel Macron, aux yeux de ses propres électeurs? Parce que si Marine Le Pen soutient indirectement ce gouvernement, donc elle évitera de lui taper sur la tronche dans toutes ses interviews, les députés RN, pareil, vont y aller mollo avec le gouvernement. Finalement, qui va être la seule vraie opposition au gouvernement dans l'hémicycle? Bah, la gauche. Donc, il y a peut-être beaucoup d'électeurs qui vont se dire, bah, en vrai, si on est anti-Macron et anti-Barnier, c'est à gauche qu'il faut voter, quoi. Après, est-ce que la gauche réussira à reconquérir cet électorat qui vote RN depuis maintenant plus de 10 ans? Bon courage, on verra. Et je suis pas sûr que ce soit en traitant Ruffin de fasciste qu'on y arrivera. Mais ça, c'est un point de vue à la con parmi plein d'autres. Laquelle des gauches? Ah bah la gauche unie! Après, les électeurs feront leur choix. Parce que je vous rappelle qu'il y aura peut-être un scrutin proportionnel, hein, l'année prochaine. Il y aura peut-être un scrutin proportionnel. Donc, la gauche aura plus besoin de l'union. Je vous rappelle qu'un scrutin proportionnel, ça signe la fin du NFP, hein. Pas besoin de faire une alliance électorale dans un scrutin proportionnel, ça ne sert à rien. Dissolution en juin prochain. Marine Le Pen a annoncé qu'elle souhaitait une dissolution en juin prochain. Et je vous rappelle que Marine Le Pen a le pouvoir de le décider. Non, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas Marine Le Pen qui décide d'une dissolution. Mais Marine Le Pen a le pouvoir de censurer le gouvernement Barnier. Il suffit qu'elle ajoute les voix de ses troupes aux voix de la gauche et le gouvernement Barnier tombe. Et la chute d'un gouvernement Barnier l'année prochaine, au printemps prochain, signera de facto la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc indirectement, Marine Le Pen peut décider si elle veut qu'il y ait une dissolution l'an prochain. Et elle le fera si elle estime qu'elle a des chances de remporter ces élections législatives. Qu'est-ce qui pourrait donner des chances à Marine Le Pen de remporter ces élections législatives? Le scrutin proportionnel. Je vous rappelle qu'au dernier scrutin proportionnel qu'il y a eu dans ce pays, le Rassemblement national est arrivé à plus de 30% des voix. C'était les européennes. Marine Le Pen, elle veut bien 30% des sièges à l'Assemblée. Barnier a annoncé qu'il présentera son gouvernement ce soir à Macron avec 38 ministres. Oui, je sais, je sais, je sais. Je sais, c'est après 19h, ils ont rendez-vous à 19h15, 19h30. Mais alors contrairement à ce que mon décor peut laisser penser, je ne suis pas à l'Élysée, je ne suis pas dans le bureau du président de la République, donc je ne pourrai pas vous streamer en direct cette petite réunion qu'ils auront entre deux. Ah merde, t'es aux Tuileries. Ouais, c'est un fond vert. En vrai, c'est un fond vert. Je suis à l'Élysée depuis le début. Let's go. Non, ma question, j'en ai rien à foutre que le Premier ministre aille voir le président de la République pour lui présenter son gouvernement. Moi, ce que je veux savoir, c'est quand est-ce qu'il sera présenté aux Français, ce gouvernement. Est-ce que c'est pour ce soir? Est-ce que c'est pour demain? Trente-huit ministres, c'est pratiquement tout LR à l'Assemblée. 38 ministres, c'est le nombre de ministres, c'est à peu près le nombre de ministres qu'on avait sous Jean Castex et en partie sous Attal. Hein. C'est pas étonnant, 38 ministres. Hein. C'est un nombre, c'est un peu beaucoup. C'est plutôt la fraction haute de ce qu'on a l'habitude d'avoir comme gouvernement, mais c'est pas délirant. Hein. Est-ce qu'il y a une possibilité que le président refuse le gouvernement de Barnier ce soir? Ils vont peut-être faire des ajustements, ouais, c'est possible, dans la nuit. Ils vont peut-être faire des ajustements, on verra. Comment se fait-il que le nombre de ministres soit malléable? Parce qu'il n'y a pas de nombre de ministres dans la Constitution. Tu nommes autant de ministres que tu veux. Le truc, c'est que comme il y a beaucoup de ministères et beaucoup de champs de compétences nécessaires, il y a un moment, t'es un peu forcé d'avoir beaucoup de ministres. Tu peux pas ne pas avoir de ministre du logement, tu peux pas ne pas avoir de ministre de l'éducation, tu peux pas ne pas avoir de ministre de l'enseignement supérieur. Si tu commences à faire la liste, tu te rends compte qu'il va quand même falloir qu'il y ait beaucoup de monde. Mais c'est normal, en fait, il y a des champs ministériels sur lesquels il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide. Alors, tu peux t'amuser, si tu veux, à faire ce qu'on appelle des gouvernements resserrés. Ça m'a toujours fait marrer quand les présidents annoncent on va faire un gouvernement resserré. Je me souviens de Sarko avait annoncé ça et tout. En fait, tu crées juste des super giga ministères dans lesquels tu mets plein de trucs. Tu mets le travail, les affaires sociales, la santé. Les familles, les handicapés, le droit des femmes, l'enfance. Voilà, tu mets tout ça dans les mains d'un seul mec. Allez, vas-y, bon courage. C'est beaucoup trop. En fait, heureusement que ce ministre-là, ce super ministre des solidarités, il a des ministres délégués qui s'occupent d'une partie des choses. T'as un mec qui va s'occuper des familles, t'as un mec qui va s'occuper de l'enfance, etc. Parce que putain, sinon tu peux pas, en fait. Moi, je me souviens, je travaillais pour la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes. Bah, c'était déjà beaucoup, hein. Et on avait 3 ou 4 ministres délégués sur le handicap, sur le droit des femmes, sur la petite enfance et sur la famille, je crois. Est-ce que vous savez quel divers gauche a accepté? Alors moi, les rumeurs que j'ai entendues, c'était Didier Migaud. Didier Migaud, qui est un ancien socialiste, c'est un grand homme très respecté, Didier Migaud. Il a été, je dis ça parce qu'il a été président de la commission des finances sous Nicolas Sarkozy et qu'il a été, à l'époque, oui, pardon, je devrais préciser à chaque fois, la présidence de la commission des finances échoit toujours à un membre de l'opposition. Voilà, il était socialiste, la majorité était UMP, c'était donc les socialistes qui ont choisi que ce serait Didier Migaud le président de la commission des finances. Donc il était président de la commission des finances et ensuite il a été premier président de la Cour des comptes. Un poste très important qu'il a occupé et depuis je ne sais pas ce qu'il fait. Mais c'est un homme, Didier Migaud, c'est un homme très respecté qui est issu de la gauche, mais on ne peut pas dire qu'il soit, je ne sais même pas s'il est encore au Parti Socialiste, je crois qu'il n'est plus au Parti depuis des décennies, Il est actuel président de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Putain, c'est vrai, t'as raison, j'avais oublié. Il est actuellement le président de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Bah, tu vois. Ça aussi, un poste important. Alors, c'est pas stratégique, mais c'est un poste important quand même. Donc, tu vois, il fait partie de ces hommes comme Moscovici, qui est aujourd'hui à la Cour des comptes et commissaire européen et tout. Un grand commis de l'État. Tu penses quoi du refus de Courson et Coquerel de refus de Matignon des lettres de plafond? Faudrait lui demander. Ouais, t'as raison. Ça faudrait le demander à Didier Migaud. En Allemagne, ils ont 14 ministres. Ouais, mais ils ont des Länder en Allemagne. L'Allemagne est un État fédéral. Donc il y a tout un tas de trucs qui ne sont pas dirigés par l'État et le gouvernement, qui sont dirigés au niveau local. Des infos sur Touraine au gouvernement? Marisol Touraine? Ça m'étonnerait, Marisol Touraine, elle dirige un programme des Nations Unies qui s'appelle United. Sur les médicaments, notamment à direction des pays en voie de développement. Je vois pas pourquoi elle... Je vois pas pourquoi elle irait au gouvernement. Alors, Habemus Papam, non, toujours pas. Toujours pas de Papam. Macron est en train, à l'heure où je vous parle, Emmanuel Macron est en train de discuter avec Michel Barnier sur la composition du gouvernement. Par contre, Habemus, un truc vachement bien, je vous le rappelle, la sortie de mon livre, qui sera disponible le 25 septembre prochain dans toutes les librairies, vous pouvez le précommander directement auprès de votre libraire sur le lien point d'exclamation livre dans le chat. Les jeunes, c'est le présent, un livre aux éditions Payot que je publie et qui parle de la jeunesse et de la question de la prise en compte des jeunes dans la démocratie. Fin de la pub. Ah non, continuation de la pub, je ferai un lancement le 25, ce sera en direct de la librairie Le Merle Moqueur. Le Merle Moqueur qui est une librairie dans le 20e arrondissement qui est rue de Bagnolet. Et ce sera à 19h30. Donc venez. Venez, on va présenter le livre et tout, ça va être bien. Fin de la pub. Un avis ou un lien par rapport au livre de Salomé. C'est chez le même éditeur. Salomé et moi avons la même éditrice qui est formidable. Et donc mon livre est une suite du livre de Salomé. Non, je vais pas dire ça, c'est pas une suite, c'est pas vrai. Salomé a fait un travail de journaliste, elle a fait une enquête journalistique sur la question de la jeunesse. Moi, je fais un plaidoyer politique sur la question de la jeunesse. Donc c'est... voilà. On est dans la continuation, Salomé et moi, du bouquin. Tu passes à Strasbourg. Ouais, le 26, je serai à Strasbourg, au festival qui s'appelle, je sais plus comment, les librairies nocturnes. J'ai oublié le nom. Donc venez me voir à Strasbourg, ça va être chouette. C'est une coexistence exigeante. Ouais, voilà, c'est ça, c'est une coexistence exigeante entre Salomé et moi, comme entre Barnier et Macron. T'es quand à Strasbourg? Le 26 septembre. J'ai été annoncé dans le programme de l'événement. En fait, le bouquin, il faudrait que je le mette dans mon décor. Non, mais là, on voit rien, là. C'est pas grave, je trouverai un truc. C'est faux, je trouverai rien. La prochaine émission Backseat, elle aura lieu le 3 octobre. Elle aura lieu le 3 octobre parce que le 26, je suis à Strasbourg. Et donc, c'est la semaine suivante, le 3 octobre. T'as pas une image de ta couverture que tu peux mettre en insert sur ta scène? Oh non, ça va être dégueulasse. Non, mais faut que je trouve une manière subtile de mettre de la pub pour mon bouquin... En vrai, je devrais avoir des bandeaux qui pop là, mais de manière discrète et une fois de temps en temps. Faudrait que j'aie ça. Un énorme bandeau rouge. Non, mais j'en ai déjà un de bandeau, mais c'est un bandeau permanent. Oh putain, ça date, hein. Ça date la dernière fois qu'on l'a utilisé celui-là, Edouard Philippe candidat. Bah non, ça date pas en même temps, c'était il y a pas longtemps. En gros, il me faudrait un truc comme ça qui apparaît discrètement, de temps en temps, avec la couverture du bouquin. Bon, bref. Ça fait combien de temps que tu travailles sur ce livre? Un an. Un an de travail. À plusieurs. J'ai été accompagné. Candidat à quoi? Édouard Philippe est candidat à l'élection présidentielle de 2027, pour ceux qui ont raté l'info. C'est le mock-up de Dafuk qui a ce texte de base. T'es sûr de ça? C'est ton Kaizen à toi. Ouais, c'est mon Everest. Chacun son Everest, d'accord? Merde. Moi, mon Everest, c'est de sortir un bouquin. Philippe, il est candidat à la prochaine présidentielle. Il a pas dit 2027. Tu as raison, tu as raison. Tu as raison, la précision est importante. Édouard Philippe est candidat à la prochaine présidentielle. Qui aura lieu... Eh ben, on verra, hein, d'ici 2027, voilà, voilà. Est-ce que ton livre est disponible à l'achat pour l'étranger? J'habite en Suède et les sites comme la Fnac sont pas disponibles. Mon livre est disponible sur Amazon. J'en fais pas particulièrement la pub, mais mon livre est disponible sur Amazon. Donc oui, techniquement, il peut être envoyé dans le monde entier. Donc voilà. Quel est le tarif de ton livre? 19 balles. C'est pas moi qui décide. Hein. T'as une émission politique sur Twitch avec plusieurs milliers de viewers, c'est pas ça ton Everest? Si, c'est mon Everest chaque jeudi. Chaque jeudi, je gravis l'Everest grâce à vous dans l'émission Backseat. Est-ce que tu peux réexpliquer le livre? Point d'exclamation livre, va sur le lien, tu verras, il y a une présentation du bouquin. Mais c'est un bouquin vachement bien. Hein. Vérifié, certifié. Hein. Il est chouette. Est-ce que ton livre sera audiobooké par Nicolas Sarkozy? Non, malheureusement, Nicolas a refusé. Je lui ai dit Nico, s'il te plaît, il m'a dit non. Tu l'as écrit, mais est-ce que tu l'as lu? Ah, tu déconnes, mais je l'ai relu, ouais. Je l'ai relu parce qu'entre le moment où on l'avait écrit, etc., et enfin après on a travaillé sur les chapitres, sur des parties qu'on a revalidées, machin, etc. Donc il y avait des trucs que, c'est pas que je les avais oubliés, mais c'est que ça remontait à plusieurs semaines ou plusieurs mois. Je peux pas, j'ai le procès. Il y a une préface? Non, il n'y a pas de préface. Bon, je suis désolé, hein, j'étais pas vraiment parti pour parler de mon bouquin, mais en vrai, achetez-le quand même, il est bien. Voilà. Bon, si vous voulez qu'on continue à parler de politique, moi je suis chaud. Je vous le disais, on a une mobilisation à l'appel des mouvements, enfin pas des mouvements, des syndicats, qui devrait avoir lieu le 1er octobre prochain, jour de la reprise de la session ordinaire à l'Assemblée nationale, jour de discours de politique générale de Michel Barnier, à suivre en direct sur ma chaîne Twitch, évidemment. Mais pendant qu'il y aura le discours à l'Assemblée et le débat, parce qu'ensuite il y a d'autres prises de parole, il y aura des manifestations partout en France pour protester, enfin, pas pour protester formellement contre Barnier, mais surtout pour réclamer des hausses de salaire. On verra ce que donneront ces mobilisations, est-ce qu'elles seront beaucoup suivies ou pas, est-ce que la gauche réussira à mobiliser largement dans la rue. Est-ce que tu penses qu'il est possible que la France devienne un État fédéral? Ce n'est réclamé par personne dans le champ politique, donc non. C'est un appel intersyndical? De mémoire, c'est un appel de la CGT, de la FSU et de Solidaire? Je crois. Je sais plus. Après, il y en a peut-être d'autres qui vont se greffer dessus, on verra. La CFDT se serait rétractée. Ouais, mais c'est pas étonnant dans le sens où la CFDT, c'est le premier syndicat des travailleurs du privé. Et les enjeux pour les travailleurs du privé sont pas tant budgétaires du côté du budget de l'Assemblée. C'est normal que la FSU, qui représente quand même beaucoup de beaucoup, et la CGT, qui représente quand même beaucoup de fonctionnaires, ils sont des syndicats très importants dans l'État, dans les collectivités locales et à l'hôpital, soient plus présents sur la phase de négociation budgétaire. Je comprends pas le concept des études de politique. Pourquoi est-ce qu'il y a des écoles qui t'enseignent la politique? Ça n'a pas de sens pour moi. Les écoles dont tu parles, ce sont les IEP, les instituts d'études politiques. Ce ne sont pas des écoles qui enseignent la politique. Ce sont des écoles qui enseignent différents cursus qui permettent de travailler dans des domaines qui sont de près ou de loin liés aux politiques publiques. Donc tu vas y trouver des cursus de sociologie, des cursus d'histoire, des cursus de préparation au concours de la fonction publique, tout simplement. D'économie politique. Donc voilà. Il y a du droit et tout, ouais. Et puis il y a plein de cursus différents. Hein. Sciences Po ne forme pas un seul diplôme. Hein. Il y a plein de, tu peux faire plein de trucs différents à Sciences Po. Il y a du journalisme aussi. Les études pour la Constitution, c'est du politique? Bah, traditionnellement, on utilise le droit constitutionnel. Mais en réalité, les études pour la Constitution, ça veut rien dire parce que tu peux très bien faire de la théorie générale du droit. Ça va t'aider sur les enjeux liés à la Constitution. Et puis l'économie politique aussi, et puis l'histoire aussi. Enfin, je veux dire, étudier la Constitution, c'est pas lire la Constitution, hein, c'est pas de l'exégèse. C'est pas un travail de moine copiste où on apprend par cœur la Constitution. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en droit, on n'apprend pas par cœur les textes de loi. Hein. Personne ne fait par cœur en droit. Il y a tout un contexte à comprendre, il y a toute une sociologie à maîtriser pour réussir à comprendre les tenants et les aboutissants d'un texte constitutionnel. Il y a toute une jurisprudence. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses. Heureusement qu'on fait de l'économie en études de droit. Le droit constite, c'est étudier les hadiths de Gaulle et Debré. Non mais voilà, c'est ça. Quand on apprend la Constitution, on apprend aussi la critique de la Constitution. On regarde ce que les auteurs ont publié, ce que les penseurs ont pensé, la pratique, l'histoire contemporaine. Personne ne peut connaître toutes les lois de toute façon, bah heureusement. Personne ne connaît toutes les lois par cœur. Un truc que vous apprenez en première année de droit, c'est à chercher et trouver dans un code. Vous prenez le code civil, hein, on vous apprend comment aller trouver une loi. Et moi je me souviens, dès la première année, on nous apprenait, on disait, bah voilà, il y a un client qui vient vous voir, qui a un problème pour vendre sa voiture. Il a tel problème, comment vous pouvez l'aider? Et bah on avait appris à aller dans le code civil, à regarder sur machin, les actes d'achat, les ventes, le droit de la vente et tout. Tu regardes, tu lis, t'apprends à trouver les articles, trouver les jurisprudences, machin, et puis tu écris une note récapitulative de ce que t'as trouvé. Voilà. Dès la première année, on t'apprend à faire ça. N'y a pas un principe, nul n'est censé ignorer la loi? Si, mais alors le nul n'est censé ignorer la loi ne veut pas dire que les citoyens ou les justiciables ont l'obligation d'apprendre la loi. Ça veut juste dire que tu ne peux pas te prévaloir devant un juge de ta méconnaissance du droit pour t'en tirer. Voilà. Tu peux pas, tu peux être sincèrement méconnaître, tu peux sincèrement méconnaître la loi, mais tu peux pas t'en prévaloir. Le juge peut pas dire ah vous saviez pas, ah non bah si vous saviez pas alors du coup c'est bon hein, on va passer pour ce coup-ci monsieur, maintenant vous savez. Non, ça marche pas comme ça. Non, non, non. Je ne contracte pas. Ouais, voilà, je ne contracte pas. Non, mais en fait, on vous pose pas la question. Vous savez, 100% des gens à qui on met des menottes, ils n'ont pas envie qu'on la leur mette. Hein. On leur demande pas trop leur avis en même temps. C'est un peu le principe. C'est une arrestation. Tu vois, c'est bon, voilà. Genre l'argument nul de dire je ne savais pas que c'était obligatoire de faire tel truc dans tel délai avec telle modalité. Mais vous savez, tous les ans, il y a des gens qui grugent les impôts sans le savoir. Il y a des gens, ils ne savaient pas qu'il fallait déclarer son revenu d'Airbnb, par exemple. Ah bon, je devais déclarer ça comme un revenu? Bah ouais, frère, c'est un revenu en fait. Ah bah je ne savais pas. Bah du coup, tu vas avoir un redressement fiscal? Il y a plein de gens, ils savaient pas qu'il fallait faire. Ah, fallait demander, fallait déposer un permis de construire. Bah ouais, fallait, ouais, c'est obligatoire, ouais, c'est un peu le principe du permis de construire. Faut demander l'autorisation avant de construire. Ah, je savais pas. Bah soit t'es très con, soit t'en avais rien à foutre. C'est ce qui est assez grave. Mais en fait, faut demander à un juriste. En fait, c'est voilà, dans le doute, quand tu sais pas, tu demandes à ton expert comptable. Dans le doute, quand tu sais pas, tu demandes à un avocat fiscaliste. Dans le doute, quand tu sais pas, tu demandes à un notaire. Il dit, je dois faire ça? Ouais. Tu dois faire ça. Ah bah d'accord. Bah voilà, maintenant tu le sais. Et je vous confirme qu'il faut un permis de conduire pour conduire un véhicule. Voilà, si jamais vous aviez besoin qu'on vous le dise, n'attendez pas d'être arrêté par les gendarmes. Vous le diriez que vous l'avez appris ici. Non, mais en vrai, c'est les citoyens souverains et tous ces genres de complotistes et tout qui disent, il n'y a pas besoin de permis de conduire parce que je suis pas en train de conduire mon véhicule, je suis en train de voyager, c'est pas pareil. Les mecs, ils essayent de faire des interprétations juridiques un peu pétées comme ça et ils croient que ça va passer devant les flics. Les flics, dont c'est un peu le métier quand même de contrôler des cartes grises toute la journée. Ils sont en mode, vous croyez vraiment qu'on va capter, qu'on va... Non. Non, vous allez nous présenter les papiers du véhicule et votre permis de conduire, comme toutes les voitures du monde, en fait, dans tous les pays du monde. Ah non, mais j'ai pas besoin de permis de conduire. Si, si. Vous avez besoin d'un permis de conduire. Du coup, il faut contracter, du coup. Du coup, la question se pose même pas. Voiture sans permis. Ah oui, alors les voitures sans permis, c'est des voitures que je vous conseille de conduire. Si vous voulez absolument être contrôlé par la police, c'est parmi les voitures qui contrôlent le plus les voitures sans permis. Parce que malheureusement, les voitures sans permis sont souvent conduites par des gens qui n'ont pas le permis pour de bonnes raisons. Vraiment. C'est-à-dire que on leur a retiré leur permis. C'est en général pour de bonnes raisons. C'est des gens trop âgés, c'est des gens trop bourrés, c'est des gens trop cons, c'est des... Voilà. Donc en général, les voitures sans permis, les flics, ils les voient passer, ils font, ah putain, voilà, il vient de mordre une ligne blanche, il vient de pas respecter un stop. Pff, et ben on va le contrôler. C'est vraiment les dangers de la route. Des fois des jeunes aussi. Ouais, des fois des jeunes aussi. Non, mais il y a des jeunes trop jeunes aussi pour conduire, je suis désolé. Il y a des jeunes, frère, t'as 15 ans, t'as 15 ans, t'es encore putain d'immature. Tu sais pas ce que c'est qu'un stop? Tu sais pas ce que c'est qu'une priorité à droite? Frère, conduis pas. Même une voiture sans permis, conduis pas. Tu vas te mettre en danger. Tu vas cartonner quelqu'un qui a rien demandé. Tu vas renverser un vieux. Tu vas taper un cycliste. T'es trop jeune. Il n'y a pas d'âge minimum. Les voitures sans permis, je crois que c'est 14 ans l'âge minimum. Et je crois que tu dois avoir ton... Alors je sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui. Si c'est le BSR, la SSR, le code de la route. Un truc comme ça. Ouais, c'est bien 14 et c'est bien la SSR. Voilà, bon bah 14 ans et la SSR. Moi je l'ai passé mon SSR à 14 ans. Heureusement qu'on m'a pas filé une voiture sans permis à 14 ans. Hein. En vrai, j'étais dangereux. Hein. Pas méchamment, hein. Non pas que je sois... Que je cherche l'accident, mais j'aurais, enfin, en plus une voiture sans permis, le petit truc où tu te fais cartonner par un SUV là, qui t'arrive dessus à 60 km heure, c'est un truc à crever, mais tellement bêtement. Oh là là. Oh. Non, vraiment, voiture sans permis, les jeunes, non. Et les vieux aussi, les vieux trop vieux. Hein. Malheureusement, il y a des personnes âgées. Alors, malheureusement, vous savez, les personnes âgées, elles veulent rester indépendantes et autonomes, ce que je peux comprendre, et c'est très dur de vieillir, et c'est très dur de perdre ses facultés, et de ne plus pouvoir prendre sa voiture pour aller de manière autonome quelque part. C'est une étape terrible pour les personnes âgées. Mais parfois, il y a des personnes âgées, il faut juste qu'elles acceptent qu'elles sont trop vieilles pour conduire, elles ont plus les réflexes, elles ont plus la santé, elles ont plus les yeux. Mais je sais que c'est très dur pour les personnes âgées. Je sais que c'est très dur. Les voitures, c'est dangereux à n'importe quel âge, point. Oui, bien sûr, oui, les voitures, c'est dangereux à n'importe quel âge, mais quand t'es trop vieux ou quand t'es... Alors, il y a aussi le problème des personnes addictes, hein, les personnes qui ont la maladie, qui sont addictes à une substance et qui conduisent sous l'emprise. Malheureusement, vous savez comme moi qu'il y a un certain nombre de substances, dont des médicaments par exemple, qui peuvent altérer sérieusement vos capacités à conduire un véhicule. Et c'est pas une bonne idée de conduire un véhicule quand tu prends des opiacés, quand tu prends certaines gammes d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, etc. Et la vérité dans tout ce qu'on est en train de raconter, c'est que pour la plupart des personnes, c'est pas un choix. en fait. Il y a des gens, ils conduisent leur bagnole parce qu'ils n'ont juste pas le choix. Ils sont sous antidépresseurs. Je suis une mère célibataire qui n'en peut plus, qui enchaîne deux boulots, qui est précaire, qui a deux enfants à charge, etc. Mais elle n'a pas le choix de prendre la bagnole le matin, en fait. Donc elle prend ses antidépresseurs et elle prend le volant. Je sais pas du tout pourquoi on est parti dans cette discussion-là. J'ai complètement perdu le fil. Ça reprend Baxit ? Absolument, ça reprend le 3 octobre. Car tu ne contractes pas. Ah oui, c'est ça, je ne contracte pas la méconnaissance de la loi, le droit constitutionnel. Putain, on est parti loin quand même. On est parti du droit constitutionnel, des études, des IEP, des études politiques. À quoi ça sert les IEP ? Ah ouais, du coup, j'ai défendu les IEP. Alors que moi, j'ai fait des études de droit. Moi, j'ai fait des vraies études. Moi, je suis juriste. C'est-à-dire, pour nous, les juristes, les gens qui font des IEP sont méprisables, par principe. Quand tu veux être quelqu'un de sérieux, tu fais du droit. Tu fais pas Sciences Po. Non, Sciences Po, c'est de la merde. C'est un truc de tocard, c'est un truc un peu à la mode. Non, non. Voilà, c'était ma petite opinion. Ce que dit Jean, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en fac de droit. Mais bien sûr, mais c'est normal. Les étudiants en droit, ils ont besoin de se sentir un peu supérieurs aux autres. Quand t'es étudiant en droit, tu méprises les étudiants en Sciences Po. Dis, mais c'est des trous du cul. Sciences Po, c'est la poursuite du lycée, en fait. T'as encore des cours d'histoire, t'as encore des cours d'économie, t'as encore des... Vas-y, c'est bon. Non, les gens qui font les IEP, c'est des gens qui ont raté leur entrée à la fac. C'est tout. Voilà, c'est tout. Tu méprises tous les autres étudiants. Mais oui, mais ça c'est un principe étudiant, c'est-à-dire que quand t'es dans une filière, tu apprends à mépriser tous les autres gens qui sont dans d'autres filières. Tous les autres, c'est des nazes. C'est vrai partout, ça. Regardez les ingénieurs. Regardez les ingés, voilà, très bon exemple. On apprend le mépris en école d'ingé. Les gens qui font l'armée, c'est pareil. Les militaires, ils apprennent. Les civils, pour eux, c'est des cons. Les ingés, c'est les pires. Non, c'est pas les pires. Commencez pas, il y a toujours pire. Les étudiants en école de commerce. Meilleur exemple, les étudiants en école de commerce. Ça s'ambiance dans des soirées du BDE et ça apprend à mépriser le reste du monde. Les médecins, ah putain, les facs de médecine. Le melon. C'est bon, est-ce qu'on s'est embrouillé avec toute la population là, ou est-ce qu'il en reste ? On a été parfaitement méprisables et méprisants. Est-ce qu'il nous en reste qu'on a zappé ? T'as pas encore insulté les sociologues ? Ah putain, on pourrait, hein. Les fanzous de Bourdieu là, les facs de lettres, les beaux-arts. Bon, après t'as les précaires, c'est-à-dire c'est dur de mépriser les étudiants en philo, les étudiants en lettres, etc. C'est chaud pour eux quand même. Relire Bourdieu. Relire Bourdieu. Ça, c'est le truc le plus méprisant. Et c'est des trucs que tu vois sur Twitter, que tu vois dans des commentaires YouTube et tout. C'est vraiment du virtue signaling, mais en pire. C'est vraiment relisez Bourdieu. Sous-entendu, moi, je l'ai déjà lu. Et sous-entendu, il faut le relire parce que c'est la base, vous l'avez tous lu. Ah. Relire Bourdieu. Relire Bidule. Ouais, en vrai, ça marche avec tout le monde. Relire Jean Massier. Oh, quel enfer. N'écrivez jamais ça sur Internet. Jamais. Je vous en supplie. Usul, c'est pas un grand fan de Bourdieu, justement. Si, mais Usul, il vous dira jamais relisez Bourdieu. Usul, il a pas fait d'études, hein, je vous rappelle. Usul, il a pas fait d'études. Donc, Usul, il est pas du tout du genre à mépriser les gens qui ont pas fait d'études ou qui ont pas lu la philo ou qui ont pas lu la socio. Vrai militant de gauche, il a vraiment lu Marx. Non, Usul, il est pas du tout de ce genre-là. Usul, il va se faire chier à vous l'expliquer, Bourdieu, plutôt que vous dire de le relire. C'est un truc de connard méprisant. Ah oui, c'est un truc de connard méprisant, mais éternel. Regardez Massier. Non, dites pas ça non plus. Relire Schiappa, relire le maire. Et Zemmour relisait Céline. Il y a une série de podcasts sur Louis-Ferdinand Céline de Philippe Collin sur France Inter qui est sorti cet été. Putain, qu'est-ce que c'était bien. Je l'ai écouté cet été. Voilà, si vous ne savez pas qui est Céline, si vous comprenez pas pourquoi cet auteur antisémite est toujours autant cité et tout, c'est parce que son histoire est incroyable. Sa vie est folle, son œuvre est dingue et l'histoire de sa pensée est aussi absolument rocambolesque. Donc si vous voulez vous amuser avec une série de podcasts, c'est... Céline, Voyage au bout de la nuit. Non, Voyage au bout de la nuit, c'est le nom de son roman. Voyage au bout de je sais pas quoi, le titre du podcast. Et c'est une excellente série de podcasts de Philippe Collin sur Louis-Ferdinand Céline. Vraiment très chouette. Un voyage sans retour. Merci beaucoup. Le titre du podcast, c'est Un voyage sans retour. Ou le voyage sans retour, je sais plus un des deux. Relisez Proudhon. Ah bah tiens, puisqu'on parle d'antisémite. Très bonne idée. Wauquiez ne sera pas au gouvernement. Ah ouais, t'as eu une info? Que donc, on sait qu'Emmanuel Macron et Michel Barnier sont actuellement en train de se rencontrer. Mais est-ce qu'on aura la liste des députés ce soir? Des ministres, pardon. J'ai pas l'info. Est-ce que ce sera pour demain? Est-ce qu'il y a encore des aménagements à faire? Est-ce qu'ils vont négocier le point et la virgule? Ce soir, c'est mort. Ah, j'adore parce qu'il y en a un dans le chat qui écrit ce soir, c'est mort. Et celui juste en dessous qui met ce soir, normalement. Est-ce qu'il y a colère dans le chat? Alexis Colère. Faut que je lui envoie un texto. Cher Alexis. Bon, vous bougez le fiac, oui ou merde? Voilà, je lui envoie ça. Évidemment, c'est faux, je n'ai pas le numéro de téléphone d'Alexis Colère. Y aura-t-il des modems et des horizons au gouvernement? Oui, normalement, oui. Relisez vos textos. Relisez vos textos. Tu as celui d'Atal. Ouais, j'ai le numéro d'Atal, ouais. Est-ce que je l'ai toujours? Oh putain, le dernier texto qu'on s'est échangé, c'était le 10 septembre 2022. Ça remonte, hein. Des news de Darmanin d'ailleurs en ministre. Il est probable que Gérald Darmanin soit maintenu ministre, probablement pas ministre de l'Intérieur, ça il a dit qu'il le voulait pas, mais peut-être autre chose. Si l'annonce ne se fait pas sur le stream de Jean, le gouvernement ne peut pas prendre ses fonctions, il paraît. Oui, c'est écrit dans la Constitution. Les annonces du gouvernement doivent se faire sur le perron de l'Élysée par le secrétaire général de l'Élysée et ils doivent être retransmis en live sur la chaîne Twitch de Jean Massier. C'est le protocole qui est prévu dans la Ve République. Donc ouais. Journal officiel, c'est has-been. Ouais, non, le journal officiel, c'est publié le lendemain, c'est trop tard. Comment on faisait avant ta chaîne? Bah justement, on avait le journal officiel, mais c'était chiant, ça servait à rien. Ah non, si, on utilisait une autre technologie. Il y avait une autre technologie qui s'appelait la télévision, je crois. La télévision, où ils avaient aussi un dispositif de diffusion en direct, mais c'était non interactif, il n'y avait pas de chat. À l'époque, on faisait comme ça. C'est moi où on entend très majoritairement des noms d'hommes pour ce gouvernement. C'est ce que j'entends aussi comme toi. Hein. Je constate effectivement qu'on entend beaucoup parler des mecs et assez peu des nanas. Rachida Dati serait maintenue au gouvernement également, d'après les rumeurs. Hein. C'est toujours pareil, c'est des rumeurs. Donc, on verra. Mais a priori, le gouvernement devrait être paritaire. Merci de me faire rire, ça fait du bien. Tant mieux. On s'en doute que le gouvernement sera à Paris. Vous êtes con. Vous êtes con. Non mais on verra, hein, on verra comme vous. De toutes les façons, ce qui va se passer, c'est que je fais un live demain. Hein, je fais un live demain pour couvrir en direct l'annonce. Qu'est-ce que j'ai demain? Il faut quand même que je vérifie ça. Ah mais non, demain soir, je pourrais pas live. J'espère que ce sera dans la journée, hein, parce que demain soir, je pourrais pas. Bref, il est 19h30, je vais m'arrêter là. Je vous rappelle que ce livre est disponible à partir du 25 septembre dans toutes les librairies. N'hésitez pas à aller l'acheter sur place ou alors le commander en ligne. Point d'exclamation livre dans le chat. Mon premier bouquin, j'ai très très peur. Très heureux qu'il sorte. J'ai hâte que vous le lisiez, que vous me disiez ce que vous en pensez. Merci les amis d'avoir été là, c'était cool. Je vous fais des gros bisous. Ciao, bye bye, salut!